Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Christ en Action Évangélisation. Nous prions qu'à son écoute, votre vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse.
Alors, ce matin, je voulais partager rapidement sur un sujet que j'aimerais bien que chacun de nous ouvre ses oreilles pour entendre. 2010, disons tous 2010, c'est une année. Je ne vous entends pas, dites avec moi 2010, c'est une année du travail. Dites avec moi 2010, c'est une année du travail. Amen. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui 2010, c'est une année du travail. Nous allons travailler. Regardez comment le travail. Vous savez, en regardant seulement les informations, comment les choses se passent en Haïti. Oh, c'est. Voyez comment les gens travaillent. Il y a un médecin là qu'on montrait. Un des médecins qu'on montrait qui est en train de faire fureur. J'ai oublié son nom, mais on le montre souvent là. Mais il travaille. Gupta. Il travaille d'une manière accélérée. Au moment où les autres se retirent, lui, il est là. Avec l'odeur des cadavres, avec tout. Il travaille, il est devenu même rouge. Il travaille, je ne sais même pas s'il mange, parce qu'il travaille de cette manière-là. Mais au moins, vous voyez, travailler d'une manière intense peut être une bénédiction pour beaucoup de personnes. Et c'est très important de comprendre l'importance du travail. Père Céleste, je vais te dire merci pour ce matin que tu nous donnes. Saint-Esprit de Dieu, touche ma langue et mes lèvres. Que tout ce qui est de moi se calme, que seulement ce qui est de toi sorte de ma bouche. Aide-moi à dire ce que toi, tu veux dire à ton peuple. Père, glorifie ton nom. Je te prie, Père Céleste, de bénir chaque personne qui est présentement dans cet auditorium. Seigneur, fais du bien. Parle, encourage, restaure, guéris dans le nom de Jésus. Amen. 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 OK. Le travail et son importance pour la réussite. En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est le travail et son importance pour la réussite. Voici, mais en commençant mon introduction, je voulais dire que cette année, nous avons trois choses que nous voulons atteindre. Les trois choses, les trois objectifs que l'Église Christ en Action veut atteindre cette année. Premièrement, c'est la maturité, le service et la croissance. Répétez avec moi, maturité, service, croissance. Dites encore avec moi, maturité, service, croissance. C'est ces trois choses que nous voulons atteindre, trois objectifs que nous voulons atteindre au cours de cette année. La maturité, nous voulons que chacun de nous croisse. Pourquoi? J'aimerais bien que tout le monde suive. Je ne veux pas voir des va-et-de-vient, s'il vous plaît. Quand la parole de Dieu commence, la première chose, on éteint nos cellulaires. Deuxièmement, on ne se lève plus n'importe comment. On respecte la présence de Dieu dans la salle. On reste à notre place. On suit mot par mot ce que Dieu a à dire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. J'étais en train de dire la fois passée, le Seigneur m'avait dit quelque chose. Qu'à chaque percée, il y a une maturité. À chaque élévation, Dieu exige une maturité. Amen. Le Seigneur n'élève pas sans travailler dans la maturité. Beaucoup de personnes aimeraient bien voir Dieu les élever. Beaucoup de personnes aimeraient bien vivre l'élévation. Beaucoup de personnes aimeraient bien vivre une percée ou bien un changement dans le domaine de leur vie. Mais le Seigneur dit que chaque percée doit être accompagnée d'une maturité. Chaque percée doit être accompagné d'un caractère. J'étais en train d'expliquer l'importance du caractère. Le caractère, c'est la maturité. Tu sais, tu peux bon monter dans la vie, mais si tu n'as pas un comportement, si tu n'as pas une maturité pour te garder à ce niveau-là, tu vas tomber sûrement. La maturité, le caractère est très important pour chacun de nous. Et le Seigneur a dit clairement, oui, c'est dans mon plan d'élever des gens. Oui, c'est dans mon plan de propulser les gens. Mais si les gens n'ont pas du caractère, je ne peux pas le faire. Frère, c'est le caractère qui nous garde quand nous sommes élevés. J'avais donné un exemple. Aujourd'hui, on peut te prendre, on t'établit PDG de Bombardier. Mais tu sais que si tu n'étais pas préparé pour ça, tu vas démolir toute la société. Parce que ces gens-là, on les choisit par rapport aux compétences. Et les gens pensent que si le monde choisit avant d'établir quelqu'un, on regarde ses compétences. Mais attends, le monde ne fait qu'imiter ce que Dieu a fait. Parce que comment voulez-vous que parfois, que Dieu fasse n'importe quoi dans la vie des gens, tout en sachant que s'il essaie de le faire, mais s'il n'a pas un caractère, il va s'écraser. Vous pensez que Dieu aimerait bien te perdre, tout simplement pour l'élévation? Tu penses que Dieu aimerait bien te donner des percées sans que tu aies la maturité? Regardez-moi, le niveau de notre maturité va déterminer ce que Dieu va faire dans ta vie. Si tu veux rester sans maturité, tu peux venir tous les dimanches à l'église ici, mais je te garantis que l'élévation de Dieu, toi tu entendras cela de loin. Tu ne verras rien, parce que Dieu ne gaspille jamais ses talents. Dieu ne gaspille jamais ce qu'il veut faire. Dieu n'est pas un gaspilleur de ressources. Dieu ne gaspille jamais les ressources. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il veut s'assurer bien que ces choses vont fonctionner comme il faut. C'est pourquoi il doit viser d'abord la maturité de la personne. Attends, qui peut donner de grandes responsabilités à un bébé de 3 ans? Qui peut donner la grande responsabilité à un enfant de 6 ans? Des grandes responsabilités, mais c'est impossible. Et c'est ça qui se passe. Il y a des moments parfois, les gens viennent dans les églises, ils ne comprennent pas l'importance de la maturité. Ils ne veulent pas grandir, mais ils pensent que Dieu est obligé d'opérer, de faire de grandes choses dans leur vie. Il y a beaucoup d'autres choses qui traînent parfois de s'accomplir dans nos vies. C'est parce que quelque part, nous négligeons notre croissance, nous négligeons notre caractère, nous négligeons notre maturité. On ne peut pas venir à l'église tout simplement pour chauffer les oreilles. Mais il faut avoir un objectif. L'objectif numéro un, c'est que tu grandisses jour après jour. Quand tu écoutes la parole de Dieu va t'amener dans un autre niveau. Tu n'es pas appelé à rester au même niveau depuis que tu as accepté le Seigneur. Jusqu'à présent, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, Dieu ne veut plus que tu restes au même niveau. C'est pourquoi il te dit, pense maturité au cours de cette année. Deuxième objectif, c'est quoi? C'est le service. Au fur et à mesure, on comprend comment Dieu fonctionne. Au fur et à mesure, nous comprenons qui est Dieu dans notre vie. On est prêt à les servir. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas être mature et ne pas servir Dieu. Quand quelqu'un commence à vivre la maturité, la première chose, il a l'envie de servir. Servir fait partie de ceux qui veulent grandir avec Dieu. La troisième chose, la croissance. Voir la croissance dans l'église. Quand on parle de la croissance, on parle de la croissance, voir l'église grandir. Voir le royaume de Dieu grandir. Voir le royaume de Dieu grandir, ça veut dire voir le royaume de Satan diminuer et le royaume de Dieu faire quoi? Grandir. Notre planète Terre a au moins 7 milliards. Mais quand vous regardez sur les 7 milliards d'habitants qui habitent sur cette Terre, il y a combien de milliards qui sont sauvés? Il y a combien de personnes qui sont sauvées? Mais alors que quand Christ est mort à la croix, il est mort à la croix pour les 7 milliards. Et même si nous devenons 15 milliards, Christ est mort à la croix pour. Mes frères et sœurs, un enfant de Dieu qui ne comprend pas l'importance de la croissance du corps de Christ, un enfant de Dieu qui ne tient pas compte de voir l'autre personne à côté de lui être sauvée, je crois que c'est quelqu'un qui ne comprend pas vraiment c'est quoi ça le royaume de Dieu. Parce que le travail numéro un dans le royaume de Dieu, c'est de voir une autre personne qui est perdu comme toi tu étais perdu, recevoir la grâce de Dieu et savoir, être sûr que son nom est inscrit dans les livres de vie. Vous savez, actuellement nous sommes en train de pleurer pour ce qui se passe en Haïti. Mais vous savez, le plus grand dégât pour Dieu, ce n'est pas la mort. Parce que la mort est l'entrée vers l'éternité. La mort, c'est l'entrée vers la vraie vie. Pour ceux qui ont accepté Jésus, c'est l'entrée vers la vraie vie. Mais pour ceux qui n'ont pas connu Jésus, c'est l'entrée vers le pire. Vers le pire. Quand je dis le pire, le pire. Mais souvent, nous les chrétiens, nous ne comprenons pas les choses. S'il vous plaît, Nous, les chrétiens, nous avons des difficultés. Parce que le jour que nos yeux commenceront à s'ouvrir, nous allons donner plus de l'importance à ce qui est éternel qu'à ce qui est temporaire. Frères et sœurs, vous savez, la vie sur cette terre, tu peux avoir beaucoup de coffres forts. Mais regarde un peu tous ces gens-là qui sont morts. Vous avez entendu, on a donné déjà des noms de VIP, des noms de personnes très importantes. Mais ils ont des comptes en Amérique, partout au monde. Mais vous savez, ils ont laissé ces comptes. Vous savez, personne ne s'attendait à un tremblement de terre. Ils étaient là bien dans les hôtels, ils étaient là bien, ils étaient là bien. Mais en un clin d'œil, tout se présentait et ils ont tout laissé. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous qui venez ici, Dieu m'a établi sentinelle ici. Vous qui venez, oh non, je n'ai pas de problème avec ceux qui vont ailleurs. Non, tant qu'on ne m'invite pas pour aller prêcher, non, de toute façon, je ne serai pas pasteur de tout le monde. Je peux prêcher partout, mais je ne peux pas être le berger de tout le monde. Je suis le berger de vous qui êtes là. Et je rendrai compte à Dieu pour vous. Je ne rendrai pas compte à Dieu pour d'autres personnes. Non. Je suis berger de vous qui êtes là. Ça veut dire que je suis un sentinelle. Voyez, je prêche partout dans le monde, mais j'ai toujours dit, oui, je peux être un orateur, je peux vous parler du royaume, je vous parler sur le roi, sur la réussite, je vous parler sur le salut. Mais Dieu établit toujours des bergers partout. Et chaque berger rendra compte à Dieu pour le troupeau que Dieu lui a confié. Moi, je ne rendrai pas compte à Dieu pour d'autres églises. Je rendrai compte à Dieu pour vous qui êtes ici au Centre Christ en Action et toutes les églises Centre Christ en Action. Pourquoi? C'est parce que j'ai une responsabilité. Dieu m'a appelé, je suis conscient de mon appel. Quand Dieu m'a appelé, toi tu n'étais pas là, mais Dieu m'a fait appeler. Dieu m'a parlé, je t'ai mis à part à mon service. C'est pourquoi quand je parle, je sais que quand je parle là, le Seigneur Jésus est là. Dieu le Père est là et le Saint-Esprit est là. Je ne suis pas là pour gaspiller mon temps. Je suis là pour parler en tant que sentinelle. Maintenant, au fur et à mesure, je parle. Quand je termine chaque sermon, je lave mes mains. Je dis, Seigneur, j'ai averti. Tu ne pourras pas demander le sang de ces gens-là sur ma tête. Parce que si je n'avais pas parlé, ça sera autrement. Mais parce que j'ai osé parler, maintenant que leur sang soit sur leur tête. Je lave mes mains. Et c'est très important. Frères et sœurs, en tant que membre ici à Christ en Action, j'aimerais bien, j'ai toujours insisté que la plus grande tâche que Dieu nous demande d'accomplir, nous, c'est de savoir combien des âmes qui entrent dans le royaume de Dieu. Combien des âmes, regarde un peu, vous savez le nombre de personnes qui meurent partout dans le monde, qui meurent mais sans le Seigneur Jésus. Sans le Seigneur Jésus. Ces gens-là entrent dans l'éternité, loin de la présence de Dieu, sans Dieu. Dans l'éternité. Frères et sœurs, quand on parle de l'éternité, ne blaguez pas. Parce que la vie que nous comptons, quand quelqu'un vit 80 ans, on dit, oh, il a beaucoup vécu. Oh, il a vécu. Mais 80 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. 90 ans n'a rien à voir par rapport à l'éternité. Parce que l'éternité, c'est un temps sans fin. L'éternité, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Toi qui joues avec ta vie, sache que la Bible dit qu'on demandera plus à celui qui a réussi. Frères et sœurs, vous savez qu'au fur et à mesure, vous venez écouter la parole de Dieu ici. Si tu bafoues la parole de Dieu, ton sort sera pire. Pire, pourquoi? C'est parce que tu marches sur le sang de Jésus. C'est parce que tu piétines sur la grâce de Dieu. La Bible dit qu'une telle personne ne lui restera plus de pardon. Pourquoi? C'est parce que, vous savez, la Bible dit que les gens de son monde et Gomorre, Jésus-Christ a dit, si ces gens-là ont pu saisir, si ces gens-là ont eu l'opportunité d'entendre la parole du royaume, je crois que beaucoup de personnes se seraient repenties. Même le Seigneur a dit, si les gens de Sodome et Gomorre ont eu le temps d'entendre la parole de Dieu, beaucoup de personnes seraient se repenties. Mais malheureusement, parfois même ceux qui écoutent la parole de Dieu endurcissent leur cœur. Ils sont là dans les églises. Ils pensent que la vie c'est un acquis. Ils sont là dans les églises. C'est des sans-foutistes. Ils sont là à l'église. Ils sont indifférents. Ils sont là à l'église. Ils font comme si rien n'était. Ils sont là. Ils écoutent l'avertissement de Dieu. Dieu leur parle. Mais ils sont insensibles. Indifférents. Indifférents. Et même le Seigneur dit, il y a d'autres personnes, non pas que je ne veux pas les aider, mais ils ont tellement endurci leur cœur. Ils ferment leur cœur. Et on ne peut rien faire pour de telles personnes. Même Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu n'est pas un dictateur, Dieu c'est un Dieu de collaboration. Quelqu'un peut dire amen. Dieu collabore, Dieu ne t'imposera pas, Dieu ne te forcera jamais, mais Dieu collabore toujours avec toi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis à la porte et je frappe. Quand quelqu'un est devant ta porte et qu'il frappe, si tu veux l'ouvrir, tu l'ouvres. Si tu ne veux pas, et Jésus-Christ a dit dans le livre de l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Le Seigneur Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Comment est-ce que je frappe? Par la parole de Dieu. Par l'enseignement, par le message, je frappe. Si tu m'ouvres la porte, si tu crois que ce que je dis est vrai, tu vivras exactement le résultat de ce que je dis. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention, nous devons réfléchir, nous devons comprendre l'importance. Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour croiser les bras. Le Seigneur ne travaille pas avec des gens qui croisent les bras. 2010 doit être une année de travail, et pour ta vie personnelle, et pour la vie ministérielle. 2010 doit être une année de travail où l'Église entière va travailler. J'aimerais bien vous amener dans la parole de Dieu. Nous allons voir d'abord, premièrement, qu'est-ce que Dieu dit? Suivez très bien. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous allez m'excuser, je vais foncer très, tout droit dans mon message. Il faut que je termine mon message. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous aurons le temps de louer le Seigneur. Et j'aimerais bien que maintenant, les gens qui s'occupent du ministère, même des annonces ici, j'aimerais bien qu'à partir de maintenant, vous devez savoir que la parole de Dieu doit prendre plus du temps. La louange va commencer à s'arrêter à 40 juste, ou bien 35. Les gens qui viennent en retard, ils n'ont pas besoin de profiter de la louange. Non, quelqu'un qui vient en retard, il peut trouver la louange, l'adoration est déjà finie. Où est notre problème? La personne est négligente. On ne peut pas continuer à attendre la personne pour faire quoi que ce soit. La louange va commencer à terminer à 30. Ça veut dire à pile. 10 heures pile, la louange commence l'adoration. À 30, je crois que c'est déjà suffisant. Nous aurons tout le temps d'adorer le Seigneur. Nous aurons tout le temps de louer le Seigneur. À 30, à 35, on termine. Les annonces doivent terminer au moins à 40 ou bien à 45 parce que la parole de Dieu doit être prêchée comme il faut. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons que la parole de Dieu prenne plus de place. Nous voulons que les gens prennent des stylos, qu'ils prennent note. Que la parole de Dieu n'entre pas par ici, sort de l'autre côté. Et je n'ai pas l'envie d'établir dans le ministère. Je n'ai pas l'envie d'élever des gens qui ne sont pas approfondis dans la parole de Dieu. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est pourquoi notre école biblique est très importante actuellement. Loué soit le nom du Seigneur. Prenons un peu la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quelque chose. Le travail est le secret de la prospérité et même du succès. Il y a des conditions pour être prospère et même béni. Tu dois sortir de ton lot. Si nous lisons dans le Psaume 18, verset 36, rapidement, et puis préparez déjà Psaume 68, verset 29. Commençons d'abord par 68, verset 29, rapidement. Et puis, prépare-moi Psaume 18, verset 36. Ça, c'est notre introduction. J'aimerais bien entendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de nous? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, tu élargis le chemin sous mes pieds et mes pieds ne chancellent point. Ça, c'est quoi ça? Psaume 18, j'avais bien dit. Psaume 18, 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Amen. Dieu dit, tu me donnes quoi? Le bouclier de ton salut. Ta droite fait quoi? Me soutient et je deviens grand par ton salut. Regardez-moi. Dieu dit ici, le plan de Dieu, c'est que tu deviens grand. Pourquoi? C'est parce que sa main te soutient. Dites à la personne à côté de toi, est-ce que tu as entendu la volonté de Dieu pour toi? Parlez. J'aimerais bien qu'on parle. Dites, as-tu compris la volonté de Dieu? Tu as entendu ce que Dieu dit? Dieu veut que tu deviens grand ou grande. Dis-lui. Bon, lisons maintenant le psaume, rapidement, le psaume, là nous sommes en train de saisir la pensée de Dieu. 68, verset 29. 68, le psaume 68, verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça. Est-ce que vous pouvez le projeter? Allez-y. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu dit? Ton Dieu ordonne que tu sois quoi? Faible. Est-ce que la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois faible? Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Au ciel? Au ciel? Tu seras puissant au ciel? Attends, est-ce que tu peux... Dieu veut que tu sois puissant au ciel? Où tu dois être puissant? Sur la terre. Regardez-moi en face, s'il vous plaît. Que personne ne parle à l'autre. Tu n'es pas un interprète. S'il vous plaît. Alléluia. 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 C'est Dieu qui dit, Dieu ordonne que tu sois puissant. Non pas au ciel, mais sur la terre. Mais il y a des conditions pour être puissant. Il y a des conditions pour être puissant. Parce que regardez-moi, ici on ne parle pas de la puissance selon les normes de ce monde. Parce qu'il y a les puissants de ce monde. Il y a des puissants de ce monde, politiquement, financièrement, je ne sais pas. Voyons penser de côté. Il y a ceux qui sont puissants selon les normes de ce monde. Mais ici là, la puissance que le monde peut te donner, tu peux être fort financièrement, tu peux être fort militairement, mais en un clin d'œil, tu peux tout perdre. Oh, vous savez, vous connaissez un peu l'histoire des empires. Les empires romains, les empires grecs, les empires perses, qui étaient des empires qui bousculaient le monde. Mais quand vous suivez l'histoire, si vous êtes les gens qui lisent la Bible, vous allez voir comment Dieu permettait qu'une toute petite armée aille se fracasser derrière cet grand empire et l'empire faillissait. Frères et sœurs, nous voyons par là que c'est Dieu qui rend puissant. Mieux vaut chercher que Dieu te rend puissant. Et la Bible dit que Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas le système. Ce n'est pas le système de ce monde. Ce n'est pas le système de ce monde qui ordonne que tu sois puissant. Mais c'est Dieu qui ordonne que tu sois puissant. Pourquoi? La Bible dit qu'il a fermé, béni soit le nom de Saint, a fermé au Dieu ce que tu as fait pour nous. Mais Dieu ordonne. Moi j'aime ça. Quand Dieu déclare, ordonner, c'est déclarer. Dieu te parle ce matin et dit, mon enfant, je veux que tu sois puissant. Vous savez, il y a une certaine façon de voir la puissance de Dieu. Les gens pensent qu'être puissant, c'est écraser les gens. Les gens pensent qu'être puissant, c'est dominer sur les gens. Les gens pensent qu'être puissant, non. Vous savez, Dieu veut que tu sois puissant intérieurement. Parce que quand on est fort intérieurement, l'intérieur peut se manifester dans l'extérieur. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu n'ordonne pas que tu sois faible. Et quand Dieu dit « j'ordonne que tu sois puissant », ça veut dire qu'il te donne la puissance de dominer sur la puissance qui règne sur ce monde. Il y a une force, frères et sœurs. Le royaume de Satan est vrai. Le royaume de Satan, on peut voir par des événements, par des choses, ce qu'il est capable de faire. Mais le Seigneur dit « je t'ordonne que tu sois puissant ». Quand Dieu te rend puissant, ça veut dire que tu es au-dessus de toute autre puissance. C'est Dieu qui le dit, quitte à toi de le recevoir. Dieu veut que je sois puissant. Dieu l'ordonne. Dieu commande que je sois puissant. Mais, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de toutes choses. La puissance ne se manifestera pas dans notre vie tant qu'on ne marche pas dans la crainte de Dieu. Venir à l'église, c'est autre chose. Mais respecter Dieu hors de l'église, c'est toute autre chose. Craindre Dieu, honorer Dieu hors de l'église, ça dépend de toi. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Tu peux être ici quelqu'un de bien, mais dehors, toi-même, tu sais ce que tu vis. Quelqu'un peut dire amen. Dieu veut que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais il y a des conditions. Marche dans la crainte de Dieu. Nous descendons rapidement. Voyons ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons puissants. Mais maintenant, il y a un autre aspect de cette puissance-là que Dieu veut que cela se manifeste. Parce que Dieu ordonne que tu sois puissant, Dieu veut que tu puisses sortir du lot. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois grand. Dieu veut que tu distingues. Quand Dieu dit, Dieu ordonne que tu sois puissant, ça veut dire Dieu veut que tu sors du lot. Dieu veut que tu sors du lot. Dieu veut que tu distingues. Devenir puissant, Dieu te dit, tu veux devenir puissant, tu dois distinguer, tu dois sortir du lot. Vous savez, il y a un lot de la foule. Les gens suivent Dieu par la foule. Mais Dieu te dit, tu ne peux pas me suivre en suivant la foule. Mais tu dois me suivre avec une relation personnelle. Si tu veux distinguer, tu dois sortir du lot. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, les gens qui progressent, ce n'est pas les gens qui suivent la foule. Mais c'est des gens qui sortent du lot et qui distinguent. Sortir du lot, c'est un choix. Si vous regardez bien, les apôtres étaient tous dans le bateau. Les disciples étaient tous dans le bateau quand Dieu marchait, quand Jésus marchait sur les eaux. Il y avait un seul disciple, Pierre, qui était sorti de l'eau. Pierre, quand il a vu, il a dit, maître, si c'est toi, ordonne que je sors et que je marche. Pierre, il était l'unique disciple qui est sorti de l'eau. Peu importe ce qu'on dit qu'il a coulé, mais vous voyez les côtés positifs. Quand on sort de l'eau, Dieu va t'appuyer. Quand tu veux distinguer, Dieu va t'appuyer. Quand Pierre est sorti, il a marché. Il a marché sur les eaux. Ne regardez pas la partie là où on montre qu'il s'est enfoncé. Non, c'est parce qu'il a commencé à suivre la distraction. Vous savez, le Seigneur est en train de me dire, dernièrement j'étais en train de prier, je crois, vers 4h du matin, je dis à mon épouse, chérie, le Seigneur vient de me dire quelque chose. Il me dit, faites attention à la distraction, ne suis pas la distraction. Je lui ai réveillé à 4h du matin, j'étais en train de prier. Quand Dieu me parle, il fallait même que j'aille un témoin. Je dis, réveille-toi. Dieu vient de me dire que je dois ne pas regarder la distraction. Et le Seigneur m'a parlé de la distraction, même à l'église ici. Il a dit, tu t'en fous de leur distraction. Tu t'en fous. C'était clair. À 4h du matin, je dis, écoute-moi, Dieu me dit que je ne dois même pas faire cas. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui seront là pour attirer la distraction. Quand le diable va voir qu'il ne peut pas t'emmener à telle gauche, à droite, maintenant il va utiliser des gens pour tenter de te distraire. Parce qu'il voit parfois qu'il ne peut pas t'emmener dans la boîte de nuit, il ne peut plus te pousser à aller te battre, il ne peut plus t'emmener dans la prostitution. Maintenant, il va créer des petites choses pour essayer de faire quoi? De te distraire. Et le Seigneur m'a mis en garde, il m'a dit, Fofi, mon enfant, faites attention, ne regarde pas à la distraction, parce que je t'ai donné une mission qui doit s'accomplir. Peu importe ce que les gens diront, mais tu as une mission, faites attention à la distraction. J'ai regardé l'heure, c'était 4h du matin. La distraction peut t'amener hors du plan de Dieu. La distraction peut t'enlever un objectif. La distraction nous focalise hors de l'objectif. La distraction viendra de plusieurs manières. Frères et sœurs, la distraction va venir de plusieurs manières. L'ennemi sait que tu deviens fort dans tel domaine. Maintenant, il aimerait bien chercher de toutes petites choses pour te distraire. Oh, un tel a dit ça. Oh, un tel a dit ça. Oh, un tel a dit ça. Tu t'en fous. Quand tu vois ça, tu dis, non, distraction, dans le nom de Jésus, retire-toi de moi. Vous savez, l'ennemi va toucher des petites choses, des petites bibites là, pour te piquer, pour essayer de... Maintenant, tu ne peux plus être focalisé sur ce à quoi Dieu t'appelle, parce que ces bibites là commencent à te piquer. Vous savez, il y a des cafards de chez nous, dans les villages, qui piquaient, hein, les punaises. Bon, vous êtes civilisés, vous ne connaissez pas ça. L'épinaise là, quand ça te pique, même en plein sommeil, tu sursautes et tu vois ça commence à gonfler. Tu as l'envie de te gratter, 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 gratter. Il y a d'autres qui vont même, qui poussent même l'audace d'entrer dans l'oreille et rester là, commencer à te piquer, piquer. Ça, ce sont des distractions. Et ça brise le sommeil. Et dans la vie, frères et sœurs, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut avertir son peuple. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut t'avertir. Le Seigneur te dit, faites attention à la distraction. Et je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je crois que le mercredi, je pourrais expliquer en grand la distraction. Ce que la distraction fait. Quand on est distrait, on perd notre focus. Quand on est distrait, on perd notre repère. Quand on est distrait, on abandonne. On est distrait, on est découragé. Quand on est distrait, on ne fournit pas. L'énergie nous quitte. Quand on est distrait, on ne peut plus être efficace. Et le diable sait qu'il doit amener la distraction pour que tu ne sois plus efficace. Parce que tu as tendance maintenant de chercher qui a dit ça, qui a dit quoi. Tu t'en fous du tout. Sois focalisé en 2010. Sois focalisé en 2010. Dites avec moi focus. Dites avec moi focus. Ah, 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 ah. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu, il est temps que le peuple de Dieu comprenne que Dieu veut que tu accomplisses de grandes choses en tant que personne, en tant qu'une personne individuelle et en même temps en tant que l'Église. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions accomplir de grandes choses. Notez bien, les grandes choses n'arrivent pas par hasard. Comme le succès et la réussite, cela ne vient pas par hasard. Regardez-moi. Beaucoup de personnes pensent que le succès est le fruit du hasard. Non. Les grandes choses dans la vie de quelqu'un n'arrivent jamais par hasard. Regardez-moi. Des grandes choses. Vous allez me donner des exemples. Quand un tel est devenu président de ceci. Ne vous en faites pas. C'est du n'importe quoi. Quand vous voyez le fruit, c'est ça qui montre qu'il est là par hasard. Mais les grandes choses... Oh non, je n'ai rien dit. Hein. Les grandes choses... Bon, suivez. Les grandes choses n'arrivent jamais par hasard. Qui a compris ça? Les grandes choses n'arrivent jamais par hasard. Que personne ne vous trompe. Beaucoup de personnes sont là en train d'attendre le succès en croisant les bras. Succès vient. Le succès ne viendra jamais par hasard et le succès ne vient jamais au fainéant. Dites avec moi, travail. Les grandes choses n'arrivent pas par hasard, comme le succès, la réussite, ainsi de suite là. Il est vrai que le dur travail n'est pas synonyme de la réussite aussi, mais travailler intelligemment amène la réussite. Quand on... Ah, oui, c'est vrai qu'on peut travailler durement, mais ne pas vivre le succès. Mais parfois, quand on travaille d'une manière intelligente, cela nous amène au succès. Le travail, d'une manière intelligente, nous amène au succès. J'aimerais bien que vous suivez très bien. Je ne parle pas dans la foule. Non, je ne parle pas généralement, mais je m'adresse à toi personnellement. J'aimerais bien que tu avales chaque parole personnellement. Ne dites pas, oh, si un tel était là. Non, ça ne s'agit pas d'un tel. Toi, tu es là parce que Dieu veut te parler. Ne bouge pas la tête pour me faire plaisir, rien du tout. Mais avale ce que tu reçois. Qui est là encore? Quand nous lisons dans la Bible, nous verrons que dans Genèse chapitre 2, lisons un peu Genèse chapitre 2. Mon ami, prépare-moi Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1, verset 31, parce que je n'ai pas le temps, je dois courir, hein, s'il vous plaît. Prépare-moi encore Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 2, verset 5. Et puis le verset 15, et puis nous allons partir rapidement. Ok, lisons un peu dans Genèse chapitre 2, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, ainsi furent achevés le ciel et la terre, toutes leurs armées. Descendez en bas. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Écoutez-moi bien. Quand on parle du repos, ça veut dire qu'il y a eu travail. Qui est là? Là, on parle du repos, ça veut dire qu'il y a eu quoi? La Bible dit que Dieu acheva. Dieu a travaillé 6 jours d'affilée. Le septième jour, il s'est reposé. Vous savez, c'est quelque chose que je peux vous interpréter de plusieurs manières. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, comme nous parlons du cadre du travail, j'aimerais vous montrer que Dieu, premièrement, c'est un travailleur. Dieu, c'est un travailleur. Répète à la personne à côté de toi, Dieu n'est pas un fainéant. Dites, Dieu n'est pas un fainéant. Dieu, c'est un travailleur. La Bible dit qu'il acheva son travail au sixième jour. Le septième jour, il s'est reposé. Frères et sœurs, le succès n'est pas le fruit du hasard. Le succès n'est pas un fruit du hasard. La réussite n'a jamais été un fruit de hasard. Vous savez, beaucoup de personnes critiquent ceux qui ont reçu. Ils critiquent. Vous savez, c'est quoi? C'est la jalousie. Parce que la personne, lui, ne veut pas payer le prix que l'autre a payé pour arriver là. Et souvent, nous le voyons, même dans les églises, les gens sont jaloux. Jaloux. Vous ne savez pas le prix que l'autre paye. Arrête parce que tu t'es détruit. Le Seigneur te donne le succès et dit, moi, je suis un travailleur. J'aimerais bien que chaque personne soit un travailleur en 2010. La Bible dit qu'il travaillait pendant 6 jours. Le septième jour, il se reposa. Nous voyons par là que Dieu, c'est un travailleur. Lisons encore dans... Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Disons très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le sixième jour. Regardez-moi, la Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Regardez-moi. J'aimerais bien expliquer quelque chose. Dans le travail, il y a plusieurs qualités de travail. On peut travailler, mais ne pas produire la qualité. Je dis bien, on peut travailler, mais ne pas produire quoi? La qualité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lisons ce que la Bible dit à propos de Dieu. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait, il a vu que c'était bon. Ça veut dire que Dieu, c'est un Dieu qui marche dans l'excellence. C'est pourquoi même quand vous lisez dans la Bible, dans l'Apocalypse, vous allez constater que dans le ciel, tout est sur mesure. Tout est la haute qualité. Et même Jérusalem qui doit venir, la Bible dit que tout est, c'est la qualité. Frères et sœurs, on peut travailler, mais est-ce qu'on travaille pour la qualité? On peut travailler, mais est-ce que tu fais la qualité? Parce que c'est la qualité qui te distingue. La qualité, frères et sœurs, tout le monde travaille, tout le monde peut faire quelque chose, mais il y a peu qui font la qualité. Il y a peu seulement qui font un travail de qualité. Il y a peu seulement, tout le monde peut croire, tout le monde peut croire, tout le monde peut chercher à prospérer, tout le monde peut chercher à grandir spirituellement. Mais la qualité de la vie spirituelle, ce n'est pas tout le monde qui le désire. Parce que le prix à payer est trop lourd. Qui est là? Dieu voya que tout ce qu'il faisait était excellent. Et Dieu s'est réjoui de voir que tout ce qu'il a créé, tout le travail qu'il a fait était excellent. Mes frères et sœurs, regardez-moi. Nous avons un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème. Parce que beaucoup de monde ne croit pas dans la qualité. Beaucoup de personnes ne croient pas dans l'excellence. Ils font des choses même chez eux. Vous savez, l'excellence, oh béni soit le nom du Seigneur. Dieu aime l'excellence. Dieu aime la qualité. Dieu aime la qualité. Tout ce qu'il a fait, la Bible dit qu'il l'a trouvé excellent. Frères et sœurs, c'est bien de travailler, mais est-ce que ce que tu fais, c'est excellent? Parce qu'il y a travail et travail, tout le monde peut travailler, mais ce qui compte, c'est l'excellence. Dieu voyait que tout ce qu'il a travaillé, tout son travail était excellent. Vous savez, même au travail, dans la vie courante, même au travail, le patron regarde ceux qui font le travail d'une manière excellente. Le patron s'en fout des personnes qui bricolent. Mais pour produire l'excellence, ça veut dire qu'il faut qu'il ait instruction. Instruction, ça veut dire qu'il faut apprendre. Tu dois apprendre sur comment faire la qualité. Les patrons sont en horaire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui gardent au travail à cause de la syndicat. Ils continuent à les garder. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème à la syndicat. Mais sinon, ils les auraient mis dehors. Pourquoi? C'est parce qu'il n'amène pas la qualité. Hello! Ça, c'est selon le monde. Selon le monde, chaque patron, chaque personne cherche un travail de qualité. Et mais vous pensez que Dieu va te demander les miettes? Vous pensez que Dieu veut que tu lui fasses un travail sans qualité? Non. Il y a eu un jour un problème qui s'est passé. La Bible dit qu'il y a des personnes qui sont parties donner une offrande à Dieu. Mais maintenant, en allant donner leur offrande à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des animaux boiteux qui avaient des plaies aux yeux, qui avaient des gales de gauche à droite, qui boitaient, qui étaient sales. Ils l'amènent et disent, ils vont trouver le sacrificateur et disent, nous avons amené un holocauste à Dieu, est-ce que tu peux le sacrifier à Dieu? L'Esprit de Dieu descend et dit, mais c'est quoi ça? Il m'apporte cet animal boiteux. Dieu le dit au sacrificateur, dis-leur de prendre le même animal, d'aller l'offrir à leur gouverneur. Si le gouverneur, si le premier ministre accepte cette qualité d'animal, alors qu'il revienne me le donne. Vous savez, la réponse était impossible. Tu ne peux pas amener un animal sale devant ton premier ministre. Il a dit, je te l'offre comme un cadeau. Mais Dieu dit, si vous ne pouvez pas le faire à vos premiers ministres, pourquoi vous le faites à moi? Frères et sœurs, il y a des services qu'on donne à Dieu qui sont des services des animaux boiteux. Il y a des choses parfois que nous faisons pour Dieu qui ne sont pas de qualité. Il y a des choses parfois que tu fais pour Dieu qui n'est pas une qualité. Dieu te dit, 2010, apporte-moi la qualité. Tout ce que tu feras pour moi, fais-le en visant la qualité et l'excellence parce que tout ce que je fais est bon. Quelqu'un peut dire amen. Le Seigneur a refusé les sacrifices. Le Seigneur a refusé. Il a dit, comment voulez-vous que vous m'apportez des animaux boiteux au moment où vous ne pouvez pas les donner à vos gouverneurs? Pourquoi vous m'apportez un service sans but, un service bizarre, et vous voulez que je l'accepte parce que vous ne me voyez pas. Vous savez, beaucoup de personnes, même dans les églises, sont comme ça. Quand on dit, on va servir Dieu, mais regardez un peu la qualité du service qu'il donne à Dieu. D'une négligence incroyable. Et quand on regarde, regardez-moi, quand on te regarde, quand on sait que tu es membre ici, tu es membre dans cette église, de quoi est-ce qu'on peut parler de toi? Quand on parle Fofi, quand on parle Jean, quand on parle Intel, quel type de qualité est-ce qu'on peut t'associer? Quelle qualité de travail est-ce qu'on peut t'associer? Quand on parle Jean, quand on parle Intel, quand on parle Alfred, quand on parle Antoinette, on voit telle qualité. La Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ah. Ça veut dire que Dieu a eu une renommée à cause de ce qu'il faisait. Le type de travail qu'il fait et qu'il faisait était tellement qualité que cela a donné sa renommée. Regardez-moi, un travail de qualité te donne une réputation. Un travail de qualité te donne une renommée. Un travail de qualité, Dieu n'est pas là pour recevoir n'importe quoi. Dieu n'est pas là pour qu'on le serre n'importe comment. Ou on le serre ou on ne le serre pas. Dieu veut que cette année que tu t'engages à lui donner le meilleur, à travailler mais d'une manière calibre. Dieu exige la qualité. Allô? Allô? Vous savez, on peut le déballer de plusieurs manières. Tu sais que même venir à l'église en retard, c'est donner un holocauste à Dieu boité. Ah, ah, ah. Ah non, tu me dis, oh, pasteur, tu sais, pasteur, tu sais. Mais ah non, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien parce qu'il y a des places où les gens ont compris. Quand le culte commence à 10h, tu vois, à 10h moins 5, la salle est remplie. Pourquoi? C'est parce que les gens ont compris. Vous savez, c'est ça qui montre la place que tu donnes à Dieu. C'est ça qui montre l'amour que tu as pour Dieu. Si au travail, tu ne peux pas arriver en retard. Mais parfois, dans la présence de Dieu, tu peux t'en foutre. Et demain, après demain, quand les choses ne vont pas, tu vas crier devant Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mais le Seigneur te dit, regarde un peu la place que tu me donnes dans ta vie. Regarde un peu la place que tu me donnes dans ta vie. Regarde un peu l'importance que tu me donnes dans ta vie. Frères et sœurs, la qualité accroisse la renommée. Une qualité de travail aiguë amène une réputation. Frères et sœurs, 2010, nous devons nous décider de travailler pour Dieu, mais de lui servir, donner un travail efficace, un travail de qualité. Amen. Dites qualité. Dites avec moi qualité. Qualité. Est-ce qu'on peut dire avec moi qualité? Qualité. Répétons avec moi qualité. Qualité. Ah, Dieu, c'est un travailleur, mais tout ce que Dieu fait, c'est la qualité. Amen. Quand Dieu travaille, il travaille la qualité. Que son nom soit béni. On est au 40e verset, alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu n'aime pas un travail médiocre. Non, un travail, Dieu cherche l'excellence. Tout le monde peut faire un travail, mais ce qui distingue, c'est le travail fait avec précision. Quel type de travail est-ce que toi tu fais? Dans Genèse chapitre 3, verset 17. Alléluia. Dieu étant un Dieu qui travaille, Dieu est en train de montrer ici. Genèse chapitre 3, verset 17, rapidement. Dans l'autre version, qu'est-ce qu'il dit? C'est par le travail. C'est par le dur labeur. Le dur labeur parle de quoi? Du travail. Mais attends, ça c'était après la désobéissance. Mais j'aimerais bien que nous montons plus haut. Lisons un peu dans Genèse chapitre 2. Verset 15. Lisez le verset 5 et puis lisez le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 2, 5 et puis lisez le verset 15. Non, on le voit là. Lorsque l'Éternel, lisons tous ensemble. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Et aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Lisez le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le... Disons cultiver. Disons cultiver. Est-ce que Dieu a dit Dieu plaça l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour qu'ils sourient le jardin? Mais Dieu les a placés dans le jardin pour faire quoi? Pour travailler. Cultiver, ça veut dire faire quoi? Travailler. Là, c'était avant la chute. Regardez-moi. Ce verset, c'est avant la chute. L'homme était encore dans son état, dans son intimité avec Dieu. Mais Dieu lui montre l'importance du travail. Dieu dit, je t'ai créé à mon image, je suis un travailleur, je veux que tu sois un travailleur. Je suis un bosseur, je veux que tu sois un bosseur. Je suis quelqu'un qui fonce dur, je veux que tu fonces dur. Dieu le plaça dans le jardin pour cultiver, pour travailler. Mes frères et sœurs, j'insiste. Il n'y a pas de réussite en étant fainéant. Les gens cherchent la réussite dans tous les domaines. Vous savez, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit le travail amène la qualité. Je vais vous dire quelque chose. Même dans les églises, aujourd'hui, si nous voyons beaucoup des églises actuellement passent leur temps à critiquer les églises qui font des efforts, qui croissent. Moi, j'ai entendu, dans une église, on était là. Le prédicateur prend la parole. Vous suivez les églises qui grandissent là. Vous voyez, regardez-moi cet aventurier. En fait, il parlait par jalousie. Il y a des personnes, c'est par jalousie qu'il parle. La croissance d'une église est très importante. Pourquoi quand l'église croisse, on dépeuple le royaume de Satan, on peuple le royaume de Dieu. N'écoutez jamais des aventuriers jaloux qui ne veulent pas payer les prix. Au moment où les autres jeûnent, prient et ils sont en train de manger, remplir leur ventre. Au moment où les autres payent les prix d'aller contacter les gens, visiter les gens, passer, parler de Jésus aux gens. Et ils s'en foutent du tout. Et ils veulent qu'une croissance arrive. La croissance n'arrive pas comme ça. Quand vous lisez l'histoire de l'église de Yongisho en Corée, j'étais en Corée à Séoul. Mais quand vous regardez le fruit de cette église, la croissance de cette église, vous savez c'est basé à quoi? J'arrive à Séoul, la capitale de Corée du Sud. J'arrive au centre-ville, les femmes, les jeunes garçons, les hommes, tout le monde avait des pamphlets. Ils avaient des tableaux. Jésus est Seigneur. Ils faisaient tout. En plein centre-ville, dans tous les coins. Vous voyez déjà, vous voyez, à l'autre côté, il y avait des prêtres des hindous. De l'autre côté, il y avait des chrétiens. Il y a des moments, on voyait les prêtres hindous plier leurs bagages, s'en aller, parce que les chrétiens envahissaient tous les coins de Séoul. Ils parlaient de Jésus sans honte. Ils parlaient de Jésus avec précision. Ils parlaient de Jésus, ils parlaient de Jésus. Tous les mondes, sans exception, il n'y avait pas de gagnants d'âme. Oh, eux, c'est des gagnants d'âme. Non, dans le corps de Christ, tout le monde est gagnant d'âme. Je n'ai pas fait, j'ai demandé, est-ce que ça c'est le groupe des gagnants d'âme? Il a dit non, celles qui ont compris l'importance du salut, qui ont goûté le salut, maintenant ils travaillent fort pour que d'autres soient gagnés au Seigneur. Aujourd'hui on parle de cette église, c'est la plus grande église au monde. C'est la plus grande église. Mais maintenant, un jour j'étais en train de prêcher à Mulhouse en France. J'étais en train de prêcher dans une église, elle est folle, le Seigneur agissait ainsi de suite. Le prédicateur vient voir, pasteur. Mais c'est un peu comme du Yongisho. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire de Yongisho? Parce que les gens sont guéris? Qu'est-ce que tu veux dire de Yongisho? Parce que je l'ai regardé. Je lui ai dit, monsieur. Et il a commencé à parler du mal de Yongisho. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que tu peux arrêter, s'il vous plaît, monsieur le pasteur? Tu es mon aîné. Avec tout le respect que je te dois, je suis désolé. Parce que ces gars-là, vous ne savez pas le prix qu'il a payé pour que l'église devienne comme ça. Vous ne savez pas. Je lui ai posé la question. Est-ce que es-tu déjà parti à Séoul? Oh non. Je lui ai dit, voyez. Tu ne sais pas ce que les membres de cette église-là font. Les membres de cette église, toute leur maison, c'est des trucs de prière. C'est des cellules de prière. C'est-à-dire, chaque personne fait tout, non pas d'être un critiqueur à l'église, mais chaque personne dans sa maison, il fait de sa maison un lieu où il peut inviter d'autres personnes. Et vous savez ce qu'ils font? Tout ce que le pasteur a prêché le dimanche, c'est ça qu'ils expliquent. Ils n'enseignent pas d'autres. C'est que le pasteur a prêché le dimanche. C'est ça qu'ils expliquent aux gens qu'ils ont amenés. Aux gens qui viennent dans leur maison. Et c'est ça qui fait que cette église-là ne fait qu'exploser. Les gens ne voient pas le fruit du travail. Les gens ne voient pas le travail. Ils voient seulement le résultat. Et parfois, il y a d'autres qui veulent avoir le résultat sans travail. Allô? Qui est là? Qui est là? Attends, même, vous savez, demain après demain, tu commences à monter, mais ils ne savent pas le nombre de heures que tu as investi à aller étudier. Personne ne verra ça. Tout ce qu'ils vont faire, tu es béni. Ah, maintenant, pour qui il se prend? Il se fait se montrer. C'est quoi ça, cette affaire? Nya, 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 nya. Non, 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 c'est la jalousie qui parle. Calme-toi. Frère, il y a un temps pour investir. Le travail, c'est la clé. Le travail dans chaque domaine, c'est une clé. Regardez-moi, il y a plusieurs façons de parler. Regardez un peu. Le temps que tu investis, exemple, à prendre soin de tes enfants, c'est du travail. Ça va reproduire ce que ça va reproduire. Frères et sœurs, vous savez qu'on peut simplifier. On peut expliquer le travail dans une manière minuscule. On peut l'expliquer d'une manière simple et claire dans chaque domaine de ta vie. Lisons. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Alléluia. J'avais dit que je vais le prêcher même pendant 3-4 dimanches. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu bénit même le fruit de nos mains. Dieu bénit le fruit de nos mains. Béni soit le nom du Seigneur. Quand vous regardez l'importance du travail, je vais vous donner un exemple avant d'aller un peu vers la fin. Quand vous regardez, exemple, la Burkina Faso, est-ce qu'il y a-t-il des Burkinabés ici? Oh, les gens de Burkina, bougez un peu les mains. Ok, ils sont là. Je vais vous dire quelque chose. Ce pays-là, quand vous lisez son histoire, c'est un pays qui était voué complètement à l'échec. Il n'y a rien en plein désert. Il y a juste Thomas Sankara qui a pris le pouvoir. Et le travail qu'il a accompli pendant 4 ans, même pendant les 40 ans suivants, ils n'ont pas pu l'accomplir. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait un esprit de travail. Ça, je vous donne l'exemple seulement dans le naturel. Quand vous regardez la Suisse, la terre de la Suisse est rocaillée. C'est une terre compliquée. La Suisse est compliquée. Mais quand vous regardez comment ils ont bâti leur pays, ils ont travaillé dur, ils ont mis des routes. Même là, il ne fallait pas mettre des routes. Il y a des tunnels en Suisse. Quand tu entres, tu vois ta respiration. Exemple, le tunnel Locarno, je crois. Luke. Ah, il y a un tunnel comme ça, de 17 kilomètres. Mais quand tu entres, tu vois même ton cœur commencer à se rétrécir. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour creuser? Ça, c'est le travail. Regarde-moi, ils ont rendu leur pays vivable. Ils ont rendu... Frère, ça je parle dans le naturel. Dans le naturel, le fruit du travail finit par se manifester. La Burkina, quand vous arrivez, même d'autres pays qui sont riches de sous-sol, ils n'ont pas la qualité de vie que la Burkina a. Pourquoi? C'est parce que c'est des travailleurs. Ils bossent. Il y a même d'autres pays, des aventuriers. Il y a de l'or, de l'argent, des diamants sous la terre, mais c'est des vrais aventuriers. Tout ce qu'ils savent, l'argent qui vient de l'Europe, pour qu'ils mettent dans leur compte, pour qu'ils aient 7-9 femmes. Voyez des aventuriers dans ce monde. Qui est là? Et les gens parfois, regardez-moi, les gens parfois sortent avec une telle mentalité. Regardez-moi, vous savez que nous traînons nos cultures. Les gens traînent leur culture, même en arrivant dans un pays développé, quand ça arrive, ils étaient tellement fainéants chez eux. Ils étaient tellement fainéants. Mais même quand ils arrivent dans un pays où les gens travaillent, ils sont là. Ils sont là toujours en train de réclamer des droits dans nulle part. Tu réclames des droits, on doit te donner des droits, pourquoi? Est-ce que c'est toi qui l'as réclamé? Mais on te dit, tu peux travailler, tu peux étudier et puis être quelqu'un. Il y a des places où on te donne l'opportunité d'étudier et de prier et Dieu va t'élever. Dieu ne travaille pas avec des aventuriers, s'il vous plaît. Dieu ne travaille pas avec des aventuriers. Moi, je suis étonné parfois des gens qui vivent en Ontario. On lui pose la question, mon ami, est-ce que tu parles l'anglais? Il dit, oh père, où est-ce que j'irai avec l'anglais? Toi, tu vis dans un coin anglophone et tu dis, où est-ce que j'irai avec l'anglais? Voyez l'esprit de fainéantise. Et les gens veulent, mais quand vous les voyez, ils aimeraient bien vivre dans l'élite, ils aimeraient bien vivre dans l'élégance. Maintenant, comme eux-mêmes ne veulent pas payer les prix, ils sont des escrocs, c'est des voleurs de chèques, ils font tout. Ils veulent maintenant profiter de la richesse des autres. Regardez-moi, quand tu voles quelque chose qui appartient à l'autre, quand cette personne va crier, la malédiction va s'abattre sur toi, sur tes enfants, sur tous ceux qui sont sur toi. Même quand toi tu meurs, la malédiction va continuer. Frères et sœurs, c'est pourquoi... Oh, quelqu'un peut dire amen. Dites avec moi le travail. Dites avec moi, cette année, c'est une année de travail. Dieu, c'est un travailleur. Dieu n'est pas un fainéant. Dieu, c'est un bosseur. Dieu travaille avec ceux qui bossent. Vous savez, hier, j'étais en train de terminer de prêcher vers 22h aux États-Unis. Je dis à mon frère, on va bouger, on va rouler toute la nuit parce que je dois prêcher. Mais vous pensez que mon corps ne tient pas? Je hurlais là, 5h, je disais, moi, mon époux, vers 6h, 6, tu peux me masser la tête parce que ma tête explose. On n'a pas dormi avec mon ami. Mais Dieu travaille. Dieu, c'est un bosseur. Je crois que je suis un bosseur. Et j'aime bosser. Les résultats ne viennent pas comme ça. Ah, mais lui, il faut faire. Mais tu ne me connais même pas. Ça fait 24 ans que je suis en Europe, moi. 24 ans. Et je n'ai pas eu de réponse. Je prêche. Et les résultats, ça s'en vient. Toi, tu vois la personne que tu vois. Frères et sœurs, la réussite est pour tous ceux qui veulent s'aligner du côté de Dieu, qui veulent dire, Seigneur, je te donne mon intelligence, je te donne mon corps, je vais bâtir une relation avec toi, et je vais faire ma part. Et la Bible dit que Dieu bénit les fruits de vos mains. Terminons dans le psaume 90. Ah, mon Dieu. Psaume 90. Alléluia. Verset 17. Psaume 90, verset 17. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui, mais je vais continuer le dimanche prochain. Et le mercredi, je parlerai un peu encore, en bref, une partie. Parce que comme la plupart des gens viennent le dimanche, je vais encore garder le gros lot le dimanche. Verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Dieu affermit l'ouvrage de tes mains. Dieu récompense le fruit de ton travail. Dieu demande à Moïse, Moïse, quand tu entres tes mains, il a dit, j'ai un morceau de bois. Il a dit, prends ce morceau de bois, frappe. Vous savez, ça demandait aussi une concentration. Moïse devrait se décider de prendre ce morceau, aller faire quoi? Frapper. S'il a dit, oh, bon, c'est quoi ça, cette affaire que Dieu me demande? Il a fallu que Moïse déplace, qu'il avance vers la mer par la foi. Premièrement, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu l'eau se séparer en morceaux par un morceau de bois. Mais ça demandait la foi. Et ça demandait une détermination. C'est ça qui lui a poussé de quitter du sec, avancer vers l'eau. Parce que s'il restait à 10 mètres de l'océan, l'eau n'allait pas se séparer. Il a fallu qu'il arrive dans l'eau. Et il soulève et il frappe. C'est un travail. Dites, c'est un travail. Dieu fera sa part, mais toi, tu dois faire ta part. 2010 ne doit pas être comme 2009. Frères et sœurs, je veux préparer encore. J'aimerais bien aller encore de profondeur en profondeur sur ce message sur le travail. Pendant moins 4 dimanches, Dieu veut que nous vivons des résultats en 2010. Mais le Seigneur m'a dit clairement, tu dois comprendre le principe du travail. Tant que les gens ne comprendront pas le principe du travail, même dans leur vie personnelle, ils ne verront rien. Allô? Allô? Le dimanche prochain, je vais continuer. Regarde-moi. Quand Isaac a béni Jacob, il lui a béni par quoi? Par des paroles. Est-ce que vous comprenez? Il lui a béni seulement par des paroles. Quand il est parti voir son oncle Laban, il est parti mais vide. Mais de retour, il était devenu riche. Quand vous entendez, même pour avoir la femme qu'il devrait avoir, il devrait travailler pendant 7 ans. Frères et sœurs, il était devenu grand parce que c'était un travailleur. Frères et sœurs, Dieu bénit. Son père l'a béni par des paroles. Il ne lui a rien donné. Mais la bénédiction qu'il a déclarée était tout. Maintenant, il fallait qu'il lui-même amène cette bénédiction dans le visible. Quand Dieu te bénit, il te rend capable. Maintenant, quitte à toi de travailler, de bâtir des relations, dites relations. Ah. Alors, attends. Faites attention à détruire tes relations. Faites attention à détruire parce que beaucoup de communautés, beaucoup de personnes du tiers-monde s'en foutent de la relation. Une relation, il s'en fout, il peut être bien avec toi aujourd'hui, demain il te rejette. Mais tu ne sais pas parfois la personne là que tu as rejetée, c'est lui que Dieu a mis sur ton chemin. Oh, regardez-moi. Faites ça. Dites à la personne à côté de toi, il faut apprendre le savoir-vivre toi. Dis-lui. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Fermons les yeux, alléluia. Fermons les yeux. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as parlé sur l'importance du travail. Seigneur, cette année 2010, je vais avoir des objectifs. Je vais faire de cette année une année du travail où je vais voir de grandes choses s'accomplir dans ma vie, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Cette année 2010, je refuse les miettes. Je refuse les miettes. Je refuse la médiocrité. Je vise l'excellence dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie sociale. Au nom de Jésus, je crois dans l'excellence et je libère au nom de Jésus l'excellence. Quelqu'un peut dire un bon amen. Fermez encore les yeux. Je ne sais pas si tu es dans la salle. Si tu es dans la salle, toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. L'excellence commence à partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'excellence commence au moment où tu dis à Jésus, viens dans ma vie. Si tu es dans la salle, mais toi, tu n'as jamais fait cette prière pour inviter Jésus de venir dans ta vie. Tu n'as jamais appelé Jésus de venir dans ta vie. Tu peux seulement bouger la main en disant, pasteur, prie pour moi, je vais donner ma vie à Jésus. Je vais lui donner la première place et que je puisse vivre l'excellence. En levant la main, tu dis avec moi, pasteur, prie pour moi, je vais donner ma vie à Jésus ce matin. En levant la main, tu te décides de te mettre du côté de Jésus. En levant la main, tu dis à Jésus, à partir de maintenant, je vais naître dans ta famille. Et plus jamais je ne serai le serviteur de Satan. Plus jamais la malédiction du diable n'agira dans ma vie. Je vais être du côté de la bénédiction. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Alléluia. Alors, presque chaque personne dans cette salle a déjà donné sa vie à Jésus. Si tel est le cas, alors nous allons passer. C'est le moment. Merci. J'aimerais bien que nous prions parce qu'il y a des gens qui ont levé leurs mains. Merci. J'aimerais bien, nous allons faire cette prière avec ceux qui ont levé leurs mains. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu as pris ma place à la croix. Tu as été crucifié pour mon péché. Tu as été enterré. Mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité. Et je te remercie pour le salut de mon âme. Et dans le nom de Jésus, je crois dans l'excellence. Parce que l'excellence, c'est la nature de Dieu. De maintenant, j'ai la vie de Dieu. Zoé, la vie de Dieu, la nature de Dieu prend la place à moi. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus. Amen.
Nous vous remercions d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 514-931-2954 ou nous visiter sur Internet au www.christenaction.com.